Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le mondial masculin de handball débute aujourd'hui en Allemagne, pays de naissance de ce sport, et au Danemark, l'une de ses places fortes. Parmi les incontournables favoris, il y a encore et toujours la France, parce qu'elle est double championne du monde en titre et parce que depuis au moins 25 ans maintenant, elle est devenue une puissance de ce sport, enchaînant les titres olympiques, mondiaux, européens. C'est valable chez les messieurs, chez les dames et désormais même en club. C'est bien simple, on commence à se poser pour la France au handball les mêmes questions qu'avec la Nouvelle-Zélande au rugby. Le handball français est-il imbattable? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Anouk Corge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au quotidien L'Équipe, où vous suivez le handball depuis 30 ans à peu près. Hein. Et Olivier Giraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Ligue Nationale de Handball. Vous avez été champion d'Europe, champion du monde avec l'équipe de France, dont vous étiez le capitaine au cours d'une carrière qui s'est achevée sur un titre de champion olympique à Pékin. En 2008, nous y étions. C'est un merveilleux souvenir et c'est un grand plaisir de vous avoir tous les deux avec nous ce soir. On va mettre tout le monde à l'aise. Hein. La question posée en introduction, elle est un peu de manière provocante. Évidemment que la France peut être battue. C'est ce qu'on appelle la glorieuse incertitude du sport. Mais quand même, l'adversaire qui affronte la France au handball, il sait qu'il va devoir transpirer peut-être un petit peu plus que d'habitude. Est-ce qu'au fil des années, le fait d'enfiler un maillot bleu donne un surcroît de confiance? Est-ce que se retrouver face à des maillots bleus fait un peu perdre les moyens aux adversaires? Et là, je reprends ma comparaison un peu comme le maillot des All Blacks au rugby, Olivier Giraud.
J'avais un petit problème avec mon micro,
ah, ça y est. D'accord,
c'est réglé. Votre question, c'est est-ce que la France peut être battue?
Ouais, c'est presque ça.
Bien sûr qu'elle peut être battue. Bien sûr qu'elle peut être battue. Parce que sinon, il n'y aura pas besoin de se présenter aux compétitions, il n'y aura pas besoin de se remettre en question. C'est vrai que l'hégémonie française, autant au masculin qu'au féminin aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment le dire, il faut être inclusif, les filles aujourd'hui sont arrivées à un niveau d'expertise comme les hommes. C'est très compliqué d'être toujours le meilleur. Très compliqué parce que les générations se succèdent et qu'à chaque fois qu'une génération arrive, elle doit porter le poids des résultats des glorieux anciens. Et que finalement, lorsqu'on arrive et qu'on porte le maillot de l'équipe de France, la seule issue, c'est la victoire. Et c'est un petit peu comme Teddy Riner, une médaille d'argent, une médaille de bronze.
Donc c'est une pression supplémentaire.
Ah ben, c'est une pression incroyable. Incroyable parce que seule, à partir de ce moment-là, seule la victoire est belle et tout le reste ne compte pas.
Alors Anouk Corge, je vous pose la question en sens inverse, est-ce que les adversaires de la France, quand ils arrivent dans la salle, ils ont peur? Peur, je sais pas, mais enfin, est-ce qu'ils sont un peu inquiets?
Mais comme le disait Olivier, c'est une habitude en fait, c'est l'habitude de l'excellence, le hand français depuis 25 ans. Et forcément, ça force le respect, mais on l'a bien vu aux Jeux de Rio en 2016, la France n'a pas gagné. Elle a fait que médaille d'argent, beaucoup s'en contenteraient, mais pas elle. Voilà, et forcément que ça inquiète les adversaires, mais ce qu'ils diront encore, si les victoires il y a dans 10 jours au championnat du monde, ça sera encore plus beau.
Mais alors, vous le disiez, Olivier Giraud, c'est cette hégémonie, cette habitude de la gagne, c'est valable aussi bien chez les hommes que chez les dames. Et en fait, c'est pas du tout un hasard. Hein. Les moyens humains mis sur les deux équipes nationales sont les mêmes. Même nombre d'entraîneurs, de préparateurs, etc.
Les primes aussi. Ça veut dire que c'est un des premiers sports qui a pas attendu cette idée de la féminisation qui est aujourd'hui et qui est totalement légitime. Ça fait plus de 20 ans que les femmes de l'équipe de France touchent les mêmes primes exactement que celles des hommes. Et c'est quelque chose d'important. Important, il y a une chose qui est encore plus importante, c'est que le spectacle au féminin devient aussi beau que le spectacle au masculin et que elles sont peut-être les fers de lance d'une nouvelle idée du sport au féminin. Mais pour revenir à l'équipe de France masculine, c'est une équipe qui se renouvelle à chaque fois. On parlera des conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, il y a eu des questions, Nicolas Karabetic ne participera pas à ce mondial ou sinon hypothétiquement,
à la fin, dans les carrés.
Hein. Et ben, c'est quelque chose qui est important parce que dans la philosophie de l'équipe de France, chaque joueur est aussi important que l'autre. Évidemment, il faut sortir des stars à chaque fois et on en sort une à chaque fois, une star emblématique. Jackson Richardson l'était, Nicolas Karabatic a pris la suite, mais c'est un sport éminemment collectif où ce sont les associations des joueurs qui mettent en valeur certaines des stars comme Nicolas Karabatic et aujourd'hui, l'équipe de France part avec une équipe où toute la stratégie a été changée pour pouvoir aller chercher ce titre. Et donc, on verra après ce championnat du monde, si les Français sont champions du monde, le positionnement des entraîneurs qui ont énormément de mal à faire des, à faire une équipe finalement, parce que c'est dur de choisir les hommes.
Anoukor, je voulais rebondir là-dessus.
Oui, parce que ce que disait Olivier, il a raison, notamment quand on parle d'hégémonie. Une des grandes forces du hand français, c'est bien chez les filles que chez les garçons, mais notamment chez les garçons, c'est cette transmission et l'intégration de nouveaux joueurs. Quand Jackson Richardson, qui a été la première icône du hand français, meilleur joueur du monde en 95, l'année du premier titre de la Sportco au championnat du monde, quand il s'est arrêté, il n'y a pas eu de cassure dans les générations. C'est aussi la force de cette fédé, c'est qu'elle sait intégrer les jeunes, les laisser grandir, même au sein de l'équipe de France, ce qui est très important. Donc ça assure une continuité de performance et de résultats.
Alors, vous le disiez, Anoukor, tout ça ne vient pas du néant. Ça fait 25 ans, en fait, que ça dure. Il y a des années de travail derrière. Alors, mais quand même, avant les bronzés et les barjots des Jeux de Barcelone en 1992, le handball français, c'était très, très loin du haut niveau. Comment est-ce que c'est arrivé? Quel a été le déclic, l'élément déclencheur? Olivier Giraud.
Alors, Anouk connaît bien cette histoire parce qu'elle a suivi l'équipe de France dans ses prémices. C'est la vision d'un homme. Oui. D'un homme qui s'est dit, aujourd'hui, même quand nous jouons contre Moscou, qui est juste une capitale, l'équipe de France peut perdre. Que devons-nous faire pour pouvoir monter, peut-être espérer atteindre quelque chose qui n'est jamais arrivé, jouer les Jeux Olympiques avec cette équipe de France? Et ben, tout simplement, il a pratiquement imposé.
Il faut dire son nom.
Oui, Daniel Constantini.
Il a une rue à son nom maintenant devant la maison du handball.
Daniel Constantini qui s'est dit et qui a dit au club et à la fédération qu'il fallait du temps, lui laisser du temps pour travailler avec un groupe, essayer d'emmener ce groupe aux Jeux Olympiques. On n'imaginait pas du tout que ce groupe, en allant aux Jeux Olympiques, irait chercher la première médaille du handball français.
Oui, à l'époque, la France organisait le Mondial B à Grenoble, c'est ça.
La France était au Mondial C, parce qu'à l'époque, il y a le hand, il y avait les mondiaux A, B et C, c'était des divisions en fait. Mmh. Et Constantini est arrivé, il venait de Marseille, c'était un des grands joueurs du SMUC à Marseille. Il a été entraîneur national en 1985 et en 89, puisqu'Olivier parlait des Jeux de 92. La France s'est qualifiée à Prague à 9h du matin en gagnant un match contre l'Islande. Et c'était le premier sportco de l'époque qui s'était qualifié déjà pour les Jeux de 92. Et comme le disait Olivier, c'est la vision d'un homme. Constantini, c'est un des grands bâtisseurs du hand français. Et c'était un peu le monde à l'envers, parce qu'en fait, c'est lui qui, en mettant les internationaux au boulot, alors que d'habitude, on travaille en club, et la récompense, c'est l'équipe de France. Et là, il a senti qu'il fallait passer entre guillemets pro, parce que le hand français, à l'époque, c'était encore un peu patronage, universitaire, tout ça, il n'y avait pas ce côté pro.
Il a monté un commando, quoi, en fait.
Complètement.
Avec une équipe de France, avec tous ceux qui allaient devenir les barjots, après. Hein,
Exactement.
C'est Denis Latou, etc. Toute cette équipe-là. Le travail derrière, il y a un gros réservoir de joueurs, parce que d'abord, il y a une culture du hand, qui est un sport scolaire très répandu en France. La première fois où l'équipe de France a été championne du monde, on avait vu des dessins dans l'équipe où on voyait tous les gamins, parce qu'ils étaient champions du monde, en fait. C'était leur sport, hein. C'était ça. Et puis, des structures fédérales et en club. Comment est-ce qu'on a fait monter tous ces joueurs à ce niveau-là, Olivier Giraud?
Justement, il y avait une blague au début quand on était en équipe de France et que les amis d'autres sports parlaient d'une autre. Je me souviens de Jacques Monclar, il disait, mais vous avez un sport...
Basket.
Exactement, vous avez un sport de préau, un sport scolaire. Et je lui répondais toujours, mais tu te rends pas compte, on est fiers de ça. C'est notre histoire, c'est notre ADN, c'est le sport à l'école. Quand on parle entre internationaux, on vient tous du sport universitaire, on a tous fait du handball au collège, à l'école. Et puis, le collège nous a emmenés dans les salles de sport pour prendre une licence. Et c'est le parcours de beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, on nous dit que notre sport est devenu professionnel, oui. Mais finalement, on a juste rajouté un étage à la fusée. Mais on est fiers et on veut garder cette identité de sport scolaire.
Comment ça se passe à Anoukor pour détecter les meilleurs? Ça se passe dès le collège ou
Dès le collège, et puis comme le disait Olivier, la grande force de la Fédération française, c'est aussi d'avoir développé des structures, d'y avoir mis les moyens pour faire la détection, pour faire la formation. Il y a des pôles France, il y a la Fédération française de hand aussi, il y a plein d'équipes jeunes, ce qui est très important, parce que d'équipes nationales jeunes, ce qui doit être unique sur la planète handball et pas loin dans les grands sports co. Et donc tout ça favorise un vivier. Et en plus, après, il y a l'exemple des champions, puisque l'équipe de France gagne depuis 25 ans, ça donne envie aux jeunes aussi de s'investir.
Oui, complètement. Et puis c'est surtout aussi l'association entre une ligue professionnelle et sa fédération, parce que il y a les pôles qui sont sous l'égide de la fédération, mais il y a la continuité de la formation qui sont les équipes espoirs des clubs professionnels, et il y a une vraie relation très fine entre les entraîneurs et les formateurs des deux structures, qui font que eh ben on peut suivre de très près l'amélioration, j'allais dire les skills de ces jeunes.
Ce que vous nous dites, c'est que la structure ligue et la structure fédération ne sont pas du tout en concurrence, comme ça peut arriver dans d'autres sports, par exemple, qui se pratiquent avec un ballon ovale.
Ben d'ailleurs, je connais très bien son président Bernard Laporte, qui était, lorsqu'on a été champion olympique,
le ministre des sports,
et qu'ils y réfléchissent, et secrétaire des sports, mais ils y réfléchissent, ils le savent, le moment où ils ont peut-être raté le coche de la formation avec Marcoussi qui est à réfléchir. C'est pour ça que on l'a vu hier, il y a une maison du handball qui s'est ouverte, mais cette maison du handball, elle n'est pas que pour les équipes de France, elle est pour le handball en entier, parce que c'est tout un sport qui s'est réuni pour pouvoir avoir cette enceinte. Les licenciés dans toutes les ligues ont mis 6 euros de plus pour que cette maison puisse naître, et le discours hier était très clair, c'est-à-dire que les licenciés ont aidé à ce que le handball soit là où il soit, à construire cette maison du handball qui est magnifique, mais que c'est la leur aussi.
Alors, je reviens sur la croissance, hein, et la montée en puissance du handball français. Les joueurs sont devenus pas champions olympiques à Barcelone, mais enfin ils ont eu la médaille de bronze, puis ils ont fini par devenir champions du monde, et puis ils se sont exportés dans les grands championnats européens de l'époque, en Espagne, en Allemagne. Ça aussi, ça a été décisif à Anouk-Korje.
Bah en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'équipe de France qui a déclenché quelque chose. Après, les clubs ont pris le relais. Et toute cette vague, quand ils sont champions du monde en 95, incite notamment les grands championnats comme l'Allemagne. Et Olivier est allé jouer aussi en Espagne, qui à l'époque était un championnat un peu plus fort, parce que depuis une crise économique. Mais en fait, le succès de l'équipe de France a provoqué le départ des ils ont été d'un coup attractifs pour les clubs étrangers.
Un peu et comme les joueurs de football, ça leur est arrivé d'ailleurs.
Absolument. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça... Mais Olivier pourra en parler mieux que moi, c'est une exigence en plus d'être étranger et de devoir assumer son statut.
Ouais, quand vous êtes parti en Espagne, Olivier Giraud, ça a été un gros gap pour vous, ça vous a fait progresser?
Ben complètement, parce que nous avions l'impression de nous entraîner dur, d'avoir voilà un niveau exceptionnel, et quand on arrive dans ces structures qui étaient des structures professionnelles à l'époque, où on ne laissait rien au hasard dans la préparation, on a découvert pourquoi ces équipes-là, pourquoi aussi leur équipe nationale était supérieure à nous. Et c'est vrai que dans le premier temps, ça a fait énormément de bien au handball français, que les forces vives s'exportent, mais en même temps, en s'exportant, on appauvrissait aussi notre propre championnat, et c'était loin des yeux, loin du cœur, et finalement ça servait peut-être l'équipe de France. Et Constantini a encore eu une idée pour les jeux de Sydney. Il y avait quelques anciens qui étaient partis, mais tous les jeunes avaient interdiction de quitter le territoire s'ils voulaient jouer ces jeux à Sydney. Et ça a été la première vague de retour des joueurs français sur le territoire.
Alors, ce sont des joueurs qui sont revenus. Et puis, aujourd'hui, ce sont les étrangers, les Espagnols, notamment, pour cause de crise économique, qui viennent en France. Le championnat et les clubs français sont devenus des puissances. Ils sont attractifs à Anouk-Korje.
Ils sont attractifs parce qu'il y a aussi des moyens. Il y a quand même Montpellier qui a gagné la première Coupe d'Europe d'un club français en 2003. Donc, autant l'équipe de France a été le déclencheur. Mais après, il y a eu des relais. Il y a eu Jean-Claude Tapie, le frère de Bernard, notamment, qui a investi à Créteil. Et Créteil a été la première équipe française à faire une Coupe d'Europe en 1989, déjà à l'époque. Après, Tapie est passé à l'OM Vitrolles, où il y avait les trois quarts de l'équipe de France. Il a donné les moyens. Alors bon, il a fait un peu banqueroute, mais n'empêche qu'ils ont gagné une Coupe d'Europe. Donc voilà, les clubs ont aussi pris le relais. Et comme le dit très bien Olivier, la Ligue a joué son rôle aussi dans ce dynamisme des clubs pour les aider, pour les structurer encore davantage.
Olivier Giraud, vous êtes le président de la Ligue nationale de handball. C'est quoi le modèle économique? Est-ce que ces clubs, Montpellier, Paris, Nantes, et puis d'autres, les clubs un peu plus traditionnels, Chambéry, est-ce que Livry-Gargan est toujours...
Non.
Je joue à Livry-Gargan. Il y avait Gagny à l'époque.
Aussi.
Absolument. Est-ce que ces clubs gagnent de l'argent? Est-ce qu'il y a un modèle économique qui permet aux propriétaires des clubs de gagner de l'argent?
Alors, il n'y a pas un seul modèle économique. On va tout de suite mettre le PSG de côté.
Oui. Donc, il y a un investisseur qatarien.
Exactement, voilà. qui, euh, qui, comme pour le foot, a fait énormément de bien à notre sport, parce que c'est une vitrine de notre sport. Et là où beaucoup auraient pensé que l'hégémonie du PSG ferait ralentir un petit peu l'avancée des autres clubs, et ben c'est pas du tout ça qui s'est passé. Ils ont développé des modèles économiques différents, intelligents, avec des structures, avec beaucoup d'entreprises, avec des actionnaires. C'est le club de Montpellier, et on voit que ça marche. Donc l'utilisation aussi selon le territoire, selon l'environnement, intelligente des forces vives pour essayer de faire vivre ces clubs. Mais la chose la plus importante, vraiment la plus importante, c'est que quand tous les meilleurs joueurs viennent jouer dans un championnat, c'est la première action, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, qui peut affaiblir une équipe nationale. C'est là où la relation entre la Ligue et la Fédération était très importante sur la formation des joueurs français, des jeunes joueurs français. Il fallait que ces jeunes joueurs français soient parmi les meilleurs du monde pour pouvoir exister dans le championnat. Et aujourd'hui, on a un ratio qui est très satisfaisant, parce que on a les meilleurs joueurs français, les meilleurs jeunes aussi, et les meilleurs étrangers dans le championnat. Et ça, c'est le maillage parfait.
Sur une équipe qui arrive sur le parquet en championnat, 7 joueurs, c'est quoi le ratio étranger-français en moyenne?
Le handball, on anticipe toujours tout. Les dangers qui peuvent arriver. Donc on est en train de légiférer sur pour qu'il y ait 40% de joueurs. Et attention, parce qu'on est en Europe, il y a quand même des lois européennes.
Oui.
On appelle ça les JFL, ce sont les joueurs formés localement. Donc ces joueurs formés localement, il faut qu'ils attestent avant leur premier contrat d'avoir passé 5 ans dans la formation française. Donc ils peuvent être aussi italiens, espagnols, mais on protège la formation à la française. On protège pas les joueurs français, mais la formation à la française.
Alors le résultat, c'est qu'en Coupe d'Europe, les clubs français, Montpellier, Nantes et Paris, ont trusté les 3 premières places du Final Four de la Coupe d'Europe en 2018. À Nouc-Corge, quand on arrive là-bas, on sait déjà qu'on va bien vendre son journal, hein, parce qu'il y a un club français qui va forcément gagner, non?
Forcément non, parce qu'il y avait 4 équipes. Et
75% de chance. Voilà.
Que 3, et en plus, celui qui gagne, Montpellier n'était pas forcément le plus attendu, puisque Paris, justement, par les moyens qu'il a et par l'acharnement qu'il essaye de mettre pour gagner enfin cette Coupe d'Europe. Donc voilà, après, oui, vendre des journaux, on espère toujours, mais ça dépend pas toujours, les critères sont pas toujours évidents à déterminer pour les vendre.
Vous le disiez, Olivier Giraud, atteindre le sommet, c'est fabuleux, y rester, c'est encore plus dur. Comment on fait pour garder son avance sur les autres nations?
Je pense que c'est un des secrets que garde farouchement la fédération, mais si on l'analyse, il est quand même facile à entrevoir. Pendant très longtemps, l'équipe de France se concentrait sur son jeu pour essayer de battre les autres, être plus fort pour battre les autres. Et finalement, il y a eu Constantini, il y a eu un autre management qui arrivait après, c'est celui de Nesta. Nesta qui a eu beaucoup de mal au début avec l'équipe de France, hein. Il était pas loin de passer par la porte plusieurs fois. Mais finalement, il s'est remis en question avec tout son staff et ils ont commencé à analyser aussi les adversaires. Les adversaires, ce que faisaient les adversaires et pourquoi pas adapter certaines choses à la sauce française qui marche chez les autres. Et c'était le début d'un nouveau travail qui est remis en question année après année, compétition après compétition, parce que les autres s'adaptent aussi. Et au jeu du chat et à la souris, pour l'instant, les Français sont pas mal. Mais attention, il y a vraiment le niveau du handball mondial est en train de monter. Et même si l'équipe de France est toujours aussi forte, il ne faut pas se dire que c'est gagné d'avance.
Eh ben, on va voir ça dans les prochains jours en Allemagne et au Danemark. Merci Olivier Giraud, merci à Nouc-Corge d'avoir participé à cette émission qu'on n'a pas vu passer. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Déborah Lepage à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Valentin Vaner. Remerciement spécial à l'ami Christophe Diremzian du service des sports de RFI. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.